Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table. Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. S'il y a bien un exercice qui maintient notre métier dans une indiscutable forme d'utilité publique, ce sont les grandes enquêtes collectives qui visent notamment à pointer du doigt les indélicatesses fiscales, la plupart du temps, des grandes de ce monde. On les appelle Panama Papers, Pandora Papers, LuxLeaks, Offshore Leaks ou encore plus récemment les Uber Files. Mais pour remarquables qu'elles sont, ces enquêtes peuvent donner l'impression d'être rarement suivies d'effets. Alors qu'en est-il vraiment ? Eh bien, on s'était posé la question en novembre 2021. Bienvenue dans Programme B.
Aujourd'hui, je vais vous parler des Paradise Papers. Ce sont les nouvelles révélations sur l'argent caché dans les paradis fiscaux.
Une enquête mondiale, donc, pour dénoncer une fois encore les circuits et les conséquences de l'évasion fiscale. Qu'en est-il, ces Panama Papers ?
Verdict aujourd'hui pour les trois lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Ils ont fait fuiter des documents sur ces ententes entre le Luxembourg et les multinationales pour leur faire payer moins d'impôts.
Souvenez-vous, il y a à peine un mois, des journalistes du monde entier publiaient les Pandora Papers. Des révélations issues de l'analyse de millions de documents provenant de cabinets spécialisés dans la finance offshore. La procédure de destitution votée mardi par la chambre basse du Parlement chilien à l'encontre du président Sebastián Piñera résulte directement de ces révélations.
Pour évoquer ces sujets et cette tentation que nous avons toutes et tous de verser dans une forme d'aquabonisme, de résignation, à voir les fraudeurs s'en sortir à bon compte, j'ai été discuter avec deux confrères qui connaissent ces sujets de l'intérieur, puisqu'ils participent activement, l'un et l'autre, à ces enquêtes titanesques. Le premier, c'est Pierre Romera, il dirige les équipes techniques de l'ICIJ, le Consortium International des Journalistes d'Investigation, c'est l'ONG qui a piloté bon nombre de ces dossiers, dont les Pandora Papers, les Panama Papers ou les Luxembourg Leaks. La seconde, c'est Anne Michel, elle est journaliste d'investigation au quotidien Le Monde, l'un des partenaires de l'ICIJ dans ses enquêtes, auxquelles elle a donc contribué. Je leur ai, à tous les deux, retourné mon interrogation principale, à savoir comment eux perçoivent cette sensation qu'on peut avoir côté lecteur, que ces révélations, passé le choc de la publication, n'ont que peu d'impact dans le temps. C'est Pierre Romera qui répond le premier.
Pour l'ICIJ, je pense que c'est un exercice qui est assez difficile, puisque c'est dans le rôle de tous les journalistes hein, de maintenir l'attention des lecteurs et des lectrices. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec des enquêtes qui sont récurrentes sur des sujets qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'évasion fiscale, le système offshore, toute cette économie. Et la manière qu'on a trouvé, nous, pour maintenir cette attention, eh bien, c'est tout simplement de continuer à traiter de ces sujets avec des informations nouvelles. Quand on a des sources qui viennent nous voir avec des nouveaux documents, des nouveaux noms, des nouvelles entreprises qui apparaissent, l'ICIJ doit les traiter comme n'importe quelle information, doit les vérifier et doit ensuite les porter à l'attention de ses lecteurs et lectrices. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que ça a un intérêt pour le public ? On est une organisation qui fait du journalisme d'intérêt public, c'est en tout cas notre mission. Et donc, à chaque fois qu'on a ces infos qui sont un peu nouvelles, on se pose cette question et tout ce qu'on sort, est censé en tout cas répondre à cette mission en tout cas. Alors pour répondre plus concrètement à ta question, nous on s'intéresse tout d'abord aux personnalités. C'est un peu une méthode qui ressemble à celle des tabloïds, hein, puisque clairement on permet d'attirer l'attention du public parce qu'il y a des gens comme Shakira, Elton John, Ringo Starr. On sait que le fait d'avoir des personnes connues dans nos documents, ça permet d'attirer l'attention des gens. Ensuite, pour maintenir justement cette attention au fil des années, on s'intéresse vraiment à l'impact. Et ça, cet impact, nous, on sait qu'il est très fort parce que quand on coordonne des enquêtes comme ça avec autant de journalistes dans autant de pays, l'impact, il n'est pas seulement celui qu'on peut voir en France ou aux États-Unis, mais c'est aussi celui qui peut être dans plein de pays. Et c'est là que nous, on fait un vrai travail de suivi, de calcul, de vérification pour s'assurer que nos enquêtes ont l'impact désiré.
Si on réfléchit à l'impact de ces enquêtes, oui. C'est vrai qu'il y a un décalage important entre l'impact de ces enquêtes sur quelques jours, l'onde de choc qu'elles provoquent, ce qui a été le cas pour les Panama Papers en 2016 et ce qui a encore été le cas pour les Pandora Papers, et les jours et ces jours d'après où le soufflet retombe, où le grand public n'en entend plus parler. C'est vrai que nous, journalistes, on aimerait qu'on en parle plus longtemps et que d'autres médias reprennent le travail, le poursuivent, creusent, et qu'on est dans une sorte de culture de l'immédiateté qui est vraiment poussée par les télévisions en continu, qui adorent les polémiques, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ni les Panama Papers, ni les Pandora Papers ne sont restés sans suite. Et ce qui se passe ensuite se déroule à bas bruit. C'est la justice qui s'en saisit, les législateurs aussi. Et c'est bien normal, hein, parce que nous, on a fait notre travail de révélation des faits, et c'est à la justice de dire s'il faut ouvrir des enquêtes, et aux législateurs de dire s'il faut changer les lois. Et par exemple, si on se souvient des Panama Papers et de l'effet, de l'impact qu'ils ont eu, ou des LuxLeaks, ces fuites d'informations qui avaient révélé comment le Luxembourg avait mis en place des systèmes d'évasion fiscale à grande échelle au bénéfice des multinationales du monde entier. Si on réfléchit à l'impact qu'ont eu ces enquêtes, eh bien, en fait, elles ont fait évoluer les lois européennes vers plus de transparence, vers plus de contrôle, en obligeant, par exemple, les sociétés à révéler l'identité de leurs bénéficiaires effectifs, en gros, de leurs propriétaires réels. Donc, en fait, on ne ressent pas de frustration. Au contraire, je dis, on ressent très fortement quand on enquête sur ce genre de sujet et qu'on participe à ce genre d'enquête internationale, on éprouve le fait qu'on exerce un métier qui a du sens, quoi, qui est important et qu'on est vraiment dans la manifestation de la vérité.
En fait, c'est, je pense, une impression qui est très relative à la France, à certains pays développés, puisqu'on est des pays où il n'y a pas forcément eu beaucoup de répercussions, il n'y a pas eu d'arrestations théâtrales. Mais si on prend des pays comme le Chili, par exemple, actuellement, le président est sous le viseur de la justice pour justement des faits de corruption et de fraude fiscale qu'il a fait via des sociétés offshore. Et dans ces pays-là, l'impact paraît beaucoup plus important et le suivi beaucoup plus important, parce que justement, il y a un risque de destitution du président. Pour ce qui est de cet effet un peu de s'intéresser à l'histoire une fois qu'elle sort, mais après perdre de l'intérêt pour l'impact, je pense aussi que c'est lié au fait que quand on sort ces enquêtes, elles sont coordonnées avec, dans le cas des Pandora Papers, 150 médias. Et donc, le jour de publication, il y a 150 médias dans le monde qui publient en même temps.
Il y a un effet de blast,
voilà,
un peu.
Il y a un peu l'onde de choc des Pandora Papers. Et forcément, toutes les informations qui sortent après ça semblent beaucoup moins importantes parce qu'on n'est pas sur des coordinations et des publications simultanées qui ont un peu un effet marteau. Néanmoins, ces révélations continuent de sortir et on se rend compte que ça intéresse moins les lecteurs et les lectrices, en fait. Clairement, on s'intéresse beaucoup plus à l'information qui est que Shakira a utilisé des sociétés offshore pour dissimuler des revenus plutôt que les décisions de justice qui y font suite. Et pourtant, il y en a eu pas mal.
Alors, on peut penser que les citoyens n'ont pas la presse qu'ils méritent. Effectivement, on aimerait que d'autres journalistes prennent le relais une fois les informations publiées, qu'il y ait un vrai travail de fond qui soit mené, mais c'est le cas, hein, dans de nombreux organes de presse. Donc, mais bon, ça doit servir d'encouragement aux journalistes des autres médias à justement creuser le sillon. À partir de ce qu'on révèle, oui, il y a un vrai travail de fond à mener. Il y a des tas de il y a des tas de sujets à creuser. Il y a effectivement, on révèle une partie des noms, mais pas tous, parce qu'on les passe au filtre selon des l'intérêt public. Oui, bien sûr, les journalistes peuvent enquêter, creuser. Et alors, tu parlais du Chili. Alors, le c'est vrai qu'en Amérique latine, les Pandora Papers ont eu un effet très important. Et on voit bien comme l'information là joue un rôle très important pour un rôle démocratique, quoi, et peut faire bouger les choses.
La difficulté que moi je vois, c'est la sensation, encore une fois, on parle de sensation pure et dure, que ça entretient l'idée, qui est une fausse idée, on le voit, puisqu'il y a des conséquences concrètes, l'idée que ces révélations ne sont pas suivies des faits, justement, que, en gros, les fraudeurs s'en sortent bien, leur nom sort dans la presse, mais ça n'a finalement pas de conséquences pour eux. Ce qui est faux, on vient de le dire, mais justement, ce manque de suivi ou ce manque d'intérêt pour le suivi, j'ai l'impression qu'il entretient ce sentiment-là.
Je pense que ce discours relève d'une posture plus générale face aux événements et qui est liée, qui s'explique par le sentiment d'impuissance que ressentent beaucoup de personnes, les citoyens, face à des faits sur lesquels ils n'ont pas de prise, sur lesquels ils ne peuvent pas agir. Mais justement, je pense que face à un tel discours, nous journalistes, nous médias, avons aussi un rôle à jouer pour contrer ce genre de discours de découragement. D'abord, il est important de dire et de redire que la transparence et la régulation, les lois, ça marche. Parce que d'une enquête à l'autre, on voit l'argent illicite, les flux d'argent financier illicite se déplacer vers des centres financiers qui sont moins régulés, qui sont moins dans le viseur des autorités. Et en clair, par exemple, après les Panama Papers, qui ont placé le Panama et d'autres paradis fiscaux dans le viseur des régulateurs, et qui ont poussé ce pays à adopter de nouvelles lois anti-blanchiment et ou en faveur de plus de transparence, eh bien les fraudeurs sont allés se cacher ailleurs, par exemple du côté des Émirats Arabes Unis et en particulier de Dubaï. Et ça, on le voit clairement dans les enquêtes qui ont suivi, et notamment dans les Pandora Papers.
Après, sur justement les suites qui sont données d'un point de vue législatif, il faut aussi comprendre que ce sont des sujets qui sont complexes, qui prennent du temps à se mettre en place. Par exemple, la semaine qui a suivi la publication des Pandora Papers, aux États-Unis, les législateurs ont proposé un nouveau projet de loi qui s'appelle Enabling Act, qui est donc un sujet qui vise à contrôler toutes ces sociétés et ces avocats et ces consultants qui aident à faire de l'évasion fiscale. Or, ce genre de projet de loi, ça prend du temps à se mettre en place. Ça prend des mois, ça prend des semaines. Et donc, effectivement, c'est difficile de maintenir l'attention pendant tout ce temps-là et de réussir à prouver une semaine après publication qu'il y a eu un impact. En fait, non, il y aura un impact, mais c'est sur des semaines après la publication. Ensuite, je pense qu'il y a un autre effet qui est assez important et qui ne se voit pas, qui ne se verra jamais, qui est l'effet de dissuasion. En fait, quand vous sortez des enquêtes comme les Pandora Papers ou les Panama Papers, les personnes qui pourraient être tentées d'aller mettre leur argent dans des paradis fiscaux ne le feront pas ou le feront moins. En tout cas, on ne sait pas exactement, c'est quasiment impossible à calculer, mais on le voit, nous, dans les documents qu'on reçoit, puisque vous savez, nous, dans les enquêtes comme les Pandora Papers, on a des documents internes. On a des échanges d'emails, on a des textos, on a vraiment plein de choses qui sont très personnelles, qui sont de l'ordre de la discussion, et où on voit que des gens très riches demandent à leurs avocats, demandent à des sociétés privées de les aider à dissimuler de l'argent, mais en ayant toujours en tête que des consortiums comme la ICIJ peuvent sortir les informations sur eux. Et donc, ils vont être beaucoup plus prudents, ils vont y penser à deux fois, et dans certains cas, ils ne vont même pas du tout le faire. On sait qu'en France, alors c'est un chiffre qui date de 2019, donc il a probablement augmenté, on sait qu'en France, le fisc a récupéré près de 375 millions d'euros, justement en enquêtant sur ces noms qu'on a divulgués dans nos bases de données. Ce qui n'est pas rien, hein, c'est quand même... Le Monde avait sorti un chiffre, je crois que c'était l'équivalent de 24 écoles primaires avec une vingtaine de classes dans chaque école. Donc c'est quand même moi, ce que j'appelle un impact, en tout cas, sur notre vie de tous les jours.
Est-ce que, si on en revient à des considérations de sensations, encore une fois, est-ce que justement ces difficultés qu'on a listées, ces difficultés à faire entendre ces différents impacts qui existent, est-ce que ça peut créer une forme de lassitude dans la fabrication, dans la conduite de ces enquêtes?
Un petit peu, et c'est aussi pour ça que on essaye, nous, de faire toujours plus gros. Vous savez, après les Panama Papers, il y a eu les Paradise Papers. Après les Paradise Papers, il y a les Pandora Papers. Et à chaque fois, on essaye de battre un nouveau record. C'est un peu notre manière un peu de combattre la lassitude. Il y a un risque. C'est aussi pour ça qu'il faut que le travail qu'on fait à chaque enquête soit indiscutable, qu'il n'y ait pas de poursuite contre la CIG en diffamation, qu'on ne remette pas en cause nos découvertes. Et c'est aussi pour ça qu'on a un processus de vérification de l'information qui est si fort et que nos enquêtes durent aussi longtemps à la CIG. Je pense qu'il risque d'y avoir aussi une lassitude au fil des années. Néanmoins, les projets comme les Pandora Papers, qui sont quand même on a commencé en 2013, la CIG, donc ça fait bientôt 9 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et bien, à chaque fois qu'on sort ces enquêtes, les médias battent un record d'audience. Que ce soit Le Monde, que ce soit la BBC, le Washington Post, donc des médias qui ont quand même une audience qui est assez forte en permanence. Sur ces enquêtes, elles nous informent toujours qu'elles ont gagné des abonnés, qu'ils ont vraiment battu de nouveaux records. Et donc c'est pour ça que je pense que même si on peut avoir le sentiment d'une lassitude globale, parce que les leaks, il y en a quand même assez régulièrement désormais, que ce soit sur l'évasion fiscale ou d'autres sujets, ça continue d'intéresser les lecteurs et les lectrices, et ils continuent de se manifester en allant consulter ces médias.
On parlait des faits moins visibles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi, dans ce qui participe à l'absence de lassitude justement, un autre effet que nous, forcément, en tant que grand public, on ne voit pas, mais que toi, tu peux voir, qui est de susciter des vocations de lanceurs d'alerte, dans le sens où planter la graine qui va donner les papers de demain?
Eh bien, les Pandora Papers sont nés comme ça, en fait. On avait connaissance de l'existence de la source des Pandora Papers, mais c'est cette source qui nous a contactés en nous disant « Nous connaissons vos travaux à la CIG, nous avons vu l'impact des Panama Papers, c'était quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, on pense que vous êtes la meilleure organisation pour manipuler ce genre de documents. Donc c'est pour ça qu'on voulait confier à vous. » Et c'est même vraiment ce que nous disait la source lorsqu'on l'a rencontrée. On vous confie les documents parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de faire connaître ces exactions au grand public et le meilleur moyen pour qu'elles soient traitées le plus justement possible.
Je dirais que l'essentiel, c'est l'enquête qu'on mène et les faits qu'on révèle. Quand on participe au Panama Papers ou au Pandora Papers, très récemment, aux côtés de plusieurs centaines d'autres journalistes dans le monde, dans d'autres médias, on a le sentiment de contribuer à la manifestation de la vérité. Et c'est ce pourquoi on a voulu faire ce métier de journaliste. En fait, c'est la mission de tout journaliste. Cela, c'est informer la société, fournir la meilleure information possible à chacun. Donc vraiment, nous, journalistes, devons continuer ce travail d'information, d'explication, de pédagogie. Et l'information, c'est un bien vraiment précieux. Il nous revient à nous, journalistes, d'exercer notre métier le mieux possible.
En fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Même si ça n'avait pas d'impact, que fait-on? Est-ce qu'on arrête de recevoir des documents? Est-ce qu'on arrête de les traiter quand on a des informations comme ça? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le rôle des journalistes de traiter ces informations quand elles arrivent et d'en faire, d'essayer en tout cas d'avoir le plus d'impact possible. Et c'est vraiment tout ce qu'on essaye de faire avec les Pandora Papers. C'est pour ça qu'on implique tant de médias, c'est pour ça qu'on implique tant de journalistes. Il y a quand même 600 journalistes qui ont travaillé sur ce sujet. C'est justement parce qu'on pense que, certes, il n'y a peut-être pas eu assez de mesures qui ont été prises, mais qu'on peut continuer à avoir un impact et que c'est en mettant en contribution autant de journalistes qu'on arrivera à faire avancer les choses.
Merci à Anne-Michel et à Pierre Romera pour leurs réponses. Cet épisode a été originellement mis en ligne en novembre 2021. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous dans le camping si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you.
Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, number one in innovation for 9 consecutive years.
Visit us at asuonline.asu.edu to learn more.